BFM Bourse, on refait la séance.
Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. Rebonjour, vous étiez avec nous en début d'émission.
Rebonjour Stéphane.
Tommy Douziac, analyste financier chez Zone Bourse, est également en duplex. Bonjour Tommy, merci d'être avec nous. Et bien sûr Romain Dobry, bonjour, marché dérivé, info d'expert chez Bourse Direct. D'abord LVMH, évidemment c'est la valeur qu'on a beaucoup suivie aujourd'hui. Chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 2%. Par rapport à la même période l'an dernier, Thibaut François, c'est lié à quoi ? Une base de comparaison défavorable en Chine ?
Oui, la Chine pèse. Les croissances sur les derniers premiers trimestres ces dernières années étaient quand même assez exceptionnelles. Donc à un moment donné, forcément, ça va ralentir un jour. Ça ralentit au premier trimestre. Alors c'est pas non plus un ralentissement fou. Moins 2% effectivement en publié, plus 3% en organique. Donc c'est une publication qui reste solide. Les bases de comparaison sont effectivement extrêmement importantes. On s'aperçoit que la Chine pèse. On s'aperçoit aussi que tout ce qui est spiritueux, la baisse est un peu plus marquée. On l'a vu déjà, on l'avait vu avec les Rémy Cointreau et compagnie qui avaient fait quand même des publications, on va dire, décevantes ces derniers trimestres. Donc LVMH est aussi dans la tourmente. Mais la publication, malgré la base de comparaison très difficile, reste quand même correcte. Hein. On est à 3% de croissance organique, c'est pas si mal.
Ouais. Et le titre ce soir termine en progression de 2,8%, 804 euros tout juste. Tommy, vous êtes positif sur cette valeur, sur LVMH?
Tout à fait, on est positif sur la valeur, on est d'ailleurs actionnaire chez Zone Bourse. Donc au-delà de la publication qui peut paraître un petit peu pas extraordinaire, la consommation japonaise a porté aussi la croissance, avec une croissance stratosphérique de 32% en organique, qui vient notamment, et ça on le dit pas, mais de la consommation en fait chinoise. Il y a beaucoup de touristes chinois qui viennent au Japon, c'est une destination touristique phare pour les Chinois, et donc voilà, ça vient porter aussi ce chiffre d'affaires à 3% en organique, donc plutôt correct.
Romain Dobry, 804 euros ce soir en clôture sur LVMH. D'un point de vue graphique, d'un point de vue technique, qu'est-ce que ça nous indique ?
Ça nous indique beaucoup d'indécision. On a ce qu'on appelle un grand doji, c'est-à-dire une bougie avec des mèches longues et un petit corps au milieu. Ça veut dire indécision de la part des opérateurs. On gagnait plus de 5,35% sur le titre, on termine en hausse de 2,84%. C'est toujours une hausse, mais le titre était en train de tenter d'invalider la séquence baissière dans laquelle il se trouve depuis maintenant la mi-mars, et en débordant la zone 810 et surtout 816, ce qui a été le cas ponctuellement pendant la séance, et puis on repasse en dessous. Donc on est dans une zone neutre entre 780, 750 et 816. Il faudra repasser 816 pour réactiver la dynamique haussière et aller chercher des extensions en direction de 850 et pourquoi pas 865. Si en revanche on repasse sous 787, il y a un mouvement de baisse de 8,5 à 9% pour aller chercher une zone qui est située entre 733 et 737,80.
Thibaut François, on voit LVMH en hausse de 2,8%, Hermès également, plus 2,3%. C'est toujours compliqué, évidemment, pour Kering. On voit bien que dans le compartiment luxe en France, on a toujours deux sous-compartiments.
Ah oui, bah clairement, on s'aperçoit que Kering sous-performe nettement ses compères parce que aujourd'hui Gucci n'a plus la dynamique qu'elle avait ces dernières années. La dynamique est en baisse donc sur Gucci. C'est, pour rappel, c'est quand même plus de 50% de la marge d'EBITDA pour Kering, donc c'est pas rien. Donc c'est compliqué sur Kering. Le momentum est extrêmement négatif sur Kering. Ça ne repart pas pour l'instant. Il n'y a pas de signal aujourd'hui pour un redémarrage de Kering. Donc clairement, pour nous, on est vraiment plutôt à préférer LVMH et j'ai presque envie de dire préférer même Hermès, qui a une meilleure dynamique et sur laquelle on est beaucoup plus à l'aise, notamment sur les prochaines publications sur le groupe Hermès.
De Richebourg, aujourd'hui très regardé, le groupe de services aux entreprises et aux collectivités a revu à la baisse ses prévisions de résultats. EBITDA désormais anticipé pour cette année entre 300 et 310 millions d'euros. L'objectif initial, c'était 350 millions. C'est lié à une cyberattaque dont le groupe a été victime à l'automne dernier et on nous dit aujourd'hui que le coût sera finalement plus élevé. Thibaut François.
C'est une très bonne raison pour vendre. de Richebourg. Au-delà des fondamentaux du groupe, la communication est clairement pas bonne. On est très régulièrement en contact avec les directeurs financiers, les directeurs généraux des entreprises. C'est une cyberattaque qui a démarré au mois de novembre, qui s'est finie au mois de janvier. On a des résultats de cette cyberattaque au mois d'avril. Ça plombe quand même les résultats et les EBITDA du groupe de façon conséquente. On n'a aucune information depuis le mois de novembre. Je trouve que c'est pas normal. Et c'est clairement une vente, on va dire, de mauvaise communication du groupe de Richebourg, au-delà des résultats qui sont compliqués. Hein. De Richebourg, c'est une cyclique. Que le cycle soit moins favorable aujourd'hui, c'est une évidence. Mais je pense que de remettre ça sur la cybersécurité, je pense que c'est pas une bonne solution pour le groupe.
Tommy, vous aussi, vous avez un doute. Je vois que vous êtes négatif sur cette valeur.
Tout à fait, je rejoins mon confrère. C'est vrai qu'il y a eu l'impact financier de cette cyberattaque et également la conjoncture économique qui est moins favorable pour la production d'acier long, qui est dans le niveau d'activité est forcément lié à la construction. Donc ça se traduit par une baisse des EBITDA. Donc sur le semestre, ça devrait faire à peu près 19 à 22% de baisse. Donc voilà, on pense qu'il y a cette conjoncture à la fois macroéconomique et cette cyberattaque. Donc on est plutôt aussi vendeur sur le titre.
4,19€ en clôture ce soir, on perd 4,3% aujourd'hui, 18% depuis le début de l'année et 22,7% sur un an. Romain Daubry, d'un point de vue technique.
Bien, c'est un titre qui a arrêté de baisser depuis le mois d'octobre dernier pour se caler dans un grand trading range 4,08, 4,92. Il tentait de réactiver une dynamique haussière depuis quelques séances et avant-hier, il a déjà ouvert avec un gap baissier, un trou de cotation baissier. Aujourd'hui, une fois encore, avec des volumes lourds, c'est évidemment pas un bon signal graphique. Reste que pour l'instant, le titre préserve 4,08 en clôture, tout juste. Maintenant, sous ce niveau-là, les risques d'accélération sont importants. On a 3,67 comme premier support et comme cible ensuite, 3,23. Donc, ce n'est pas un bon signal. Il faudrait vraiment redéborder 4,92 pour réactiver une dynamique haussière. On en est loin pour l'instant.
Le titre Emeis également en baisse aujourd'hui sur le marché parisien, c'est l'ancien Orpea. Le groupe a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année 2024. L'entreprise est confrontée à un problème d'occupation de ses établissements, c'est ce qu'on nous explique. 83,1% au premier trimestre. Tommy, vous aimez cette valeur ou est-ce que vous conseillez plutôt de rester à l'écart ?
Nous chez Zone Bourse, ça fait plusieurs années qu'on avertit les investisseurs d'éviter le titre. Donc on voit bien que la nouvelle direction fait un effort pour faire les choses dans le bon ordre. En réalité, voilà, changer de nom, ça suffit pas pour régler tous les problèmes. Avant même la révélation du livre de Victor Castanet sur les coulisses d'Orpea, la société ne dégageait pas de cash, donc elle avait des problèmes sur ses cash flows. Donc là, on voit que la société a révisé à la baisse ses objectifs et ses estimations pour 2024. Si on arrive à lire entre les lignes, on voit bien que les objectifs à moyen terme qui ont été communiqués via la documentation des augmentations de capital sera difficilement tenu. Donc voilà, on est plutôt vendeur sur le titre.
Thibaut François, Emeis.
D'un point de vue opérationnel, ça fait pas rêver. Effectivement, il y a eu beaucoup de dettes, donc réduction de la dette forte, augmentation de capital
considérable. Hein.
Exactement, 50% de réduction de dette, c'est énorme. On a une augmentation de capital qui s'est faite encore en début d'année. Donc aujourd'hui, ils ont les moyens de tenir. Ce que vient de dire mon confrère, il n'y a pas de cash flow positif sur la société. Maintenant, pour s'en sortir, cet ex-Orpea, il va falloir vendre des actifs immobiliers dans des bonnes conditions dans les prochaines années. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de vendre des actifs immobiliers. Donc, ils se sont donné du temps pour bien vendre ces actifs immobiliers qui sont quand même valorisés autour de 6 milliards. La CAPI est faible par rapport à cette valorisation d'actifs. Donc, j'ai envie de dire que c'est un dossier de très long terme sur lequel ceux qui sont rentrés dernièrement à la dernière augmentation de capital prennent pas de gros risques. Mais c'est vrai que ça fait pas rêver à court terme.
On va parler d'ASML, c'est l'une des valeurs qui a fortement baissé aujourd'hui en Europe, 6,4% de baisse. C'est une valeur de croissance, vous nous le disiez un peu plus tôt dans l'émission, Thibaut, quand il n'y a plus de croissance, ça pose un problème.
Ah, et la Valo aujourd'hui prend en considération une forte croissance dans les prochaines années. Alors la publication du premier trimestre ne remet pas en cause cette croissance. Tout le monde a alerté dans le secteur, pas de croissance en 2024. C'est le cas de Soitec, c'est le cas d'STM, c'est le cas d'ASML, c'est le cas de ASMI. C'est une année de transition. Par contre, on commence le premier trimestre avec une grosse décroissance du chiffre d'affaires. Donc, il va falloir faire de la croissance maintenant sur les trois prochains trimestres. Les objectifs ont été renouvelés pour l'année 2024. Mais c'est vrai qu'il va pas falloir perdre de temps. Il va falloir rassurer le marché dans les deux prochaines publications pour que l'objectif de chiffre d'affaires un flat pour l'année 2024 soit réussi et repartir sur des années de croissance. Sinon, le marché va se poser la question et va revenir sur une valorisation qui sera beaucoup moins importante dans les prochains mois. Donc, on va dire prochaine publication à risque pour ASML.
On va terminer avec vos pépites respectives. Tommy Douzièche, c'est le titre EICO. Pour quelle raison ?
Alors, EICO Corporation, ouais, c'est un titre qu'on a sélectionné. Donc, on aime bien les côtés au NICE, la valeur, sous le symbole HEI. Donc, c'est une société qui est beaucoup moins connue que de belles sociétés comme Nvidia, Novo Nordisk. Pourtant, le parcours est aussi extraordinaire. Donc, au départ, EICO, c'était un petit fournisseur de pièces détachées pour l'aéronautique. Et c'est devenu un acteur phare, en fait, du secteur. D'ailleurs, c'est le plus grand fournisseur mondial de pièces de rechange pour les moteurs à réaction et composants qui est agréé par la FAA, donc la Federal Aviation Administration aux États-Unis. Voilà, c'est une culture d'entreprise exceptionnelle, dirigée par une famille en fait qui est au capital, qui détient 19% du capital, la famille Mendelssohn. C'est voilà, le marché des pièces de rechange, il est estimé à 14 milliards de dollars d'ici 2026. Donc ça veut dire un taux de croissance annualisé au delà de 4-5%. EICO dans ce marché croît deux fois plus vite que son secteur, à peu près à 11% par an. Et la pandémie a mis en évidence aussi la nécessité d'un acteur comme EICO qui vient apporter des réductions de coûts pour les compagnies aériennes. Donc voilà, c'est une valeur qu'on aime bien, qui bénéficie de tendances long terme et court terme.
Et on termine avec votre pépite à vous, Thibaut François. Hoffmann Green Cement. Attendez, je vous ai pas donné la clôture sur EICO. Moins 0,9%. C'est une valeur qui gagne 10% depuis le début de l'année et un peu plus de 16% sur un an. Hoffmann Green Cement, pourquoi c'est votre pépite, Thibaut?
Alors, c'est une petite boîte dans la décarbonation de ciment. C'est une boîte vendéenne, donc une boîte de notre coin. C'est une société qui permet de diviser par 5 l'empreinte carbone sur la production de ciment. Donc on est dans un marché qui est quand même compliqué aujourd'hui en Europe sur tout ce qui est construction. L'objectif, c'est pas forcément de faire un 100% de part de marché, bien sûr, c'est de rentrer dans le marché. Ils ont fait une usine test en Vendée, ils vont en faire une deuxième dans le nord de la France. Ils viennent de vendre le modèle en Émirats Arabes Unis et une commercialisation qui va arriver aux États-Unis. Donc aujourd'hui, le modèle est prouvé. Maintenant, on va dire, il n'y a plus qu'à se lancer d'un point de vue commercial, d'engranger des contrats. C'est ce qu'ils font depuis quelques années. Ça sera une société qui sera rentable dès cette fin d'année. Et je pense que c'est l'avenir dans la partie construction. Donc une société à découvrir, une société vendéenne, une société familiale et avec une valorisation qui est certes aujourd'hui un petit peu délicate parce qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires est embryonnaire, mais par contre qui devrait fortement augmenter dans les prochaines années. Donc une vraie valeur de croissance avec une rentabilité qui sera positive dès la fin de l'année.
Ouais, 12% de hausse depuis le début de l'année avec ces derniers jours un parcours boursier un peu plus compliqué. On était à 13,20 € le 4 avril. On est en dessous des 10 euros, on est même à 9 euros aujourd'hui, 9,10.
Clairement, alors ce sont des petites et moyennes valeurs qui cotent de façon irrégulière, le volume est pas facile à trouver, donc il faut rentrer et sortir dans de bonnes conditions, c'est pas toujours facile, donc il faut faire attention pour rentrer, pour sortir du marché. Ce sont des petites et moyennes valeurs, moins de 150 millions d'euros de capitalisation boursière aujourd'hui.
Merci à tous pour ce débrief de la séance d'aujourd'hui à la Bourse de Paris. Merci à vous Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. Merci Tommy Douzièche, il paraît que j'ai écorché votre nom tout à l'heure, toutes mes excuses. Analyste financier chez Zone Bourse et bien sûr Romain Dobry, marché dérivé, info d'expert chez Bourse Direct. Je vous rappelle la clôture de ce soir à la Bourse de Paris. Le CAC termine en progression de 0,62%, 7981 points. Le titre LVMH en tête des progressions après la publication du chiffre d'affaires, plus 2,8%. Du côté des valeurs en baisse, Capgemini perd 1,2%, Dassault perd 1,3%. Un coup d'œil sur le Brent qui continue de reculer. On est à $88,59. Il n'y a pas eu de de réaction épidermique depuis le début de la semaine après l'attaque contre l'État d'Israël ce week-end. Et sur l'or, on est toujours relativement proche des niveaux records, 2401 dollars l'once. On est en recul de 0,3%.